Chers frères et sœurs et chers amis, ceci est le numéro 2 concernant la série sur le salut. Avec une petite différence, c'est que il y aura environ 3 CD qui vont suivre et qui représente le manifeste pour les chrétiens. C'est donc un peu plus important. Je dis bien, cela sera possible, je pense, en 3 CD, et cela représente le manifeste pour les chrétiens. Les citations bibliques que je vais indiquer sont importantes pour vos vérifications personnelles, car personne n'est infaillible, et moi le premier. Chers amis, l'idée de présenter un manifeste, un document qui est construit solidement sur les fondements de la vérité, la sainte parole divine, est très important. Ceci est donc le produit final de près de 4 années de recherche, d'études, de notes et de préparation par des théologiens chrétiens, des érudits de toute dénomination et origine culturelle. Toutefois, on pourrait demander pourquoi un manifeste pour les chrétiens est-il nécessaire? Nous savons déjà ce en quoi nous croyons et défendons. Notre réponse est simple. Le manifeste n'est ni une confession ni une affirmation temporaire. Le manifeste est un compte-rendu durable, en fait, plusieurs comptes rendus traités d'issues extrêmement importantes confrontant tous les chrétiens en ces temps pénibles et combien changeants. Ceci est donc un manifeste pour ces temps-ci. Comme à l'époque de l'ancien prophète Ézéchiel, chapitre 22, nous évoluons actuellement dans des temps d'attaque très sévère contre les nations et contre leur peuple. Comme dans les temps d'Ézéchiel, les chrétiens sont supposés garder leur culte pur et doivent connaître, grâce à des chefs spirituels, la manière de vivre et de croire selon Dieu. Toutefois, en ignorant la sainte parole de Dieu, le jour du Seigneur et ses devoirs envers Dieu, n'est-il pas aussi devenu une banalité pour nous? Lorsqu'effectuer ses devoirs envers Dieu ne devient pas plus important qu'une autre tâche mondaine, ne volons-nous pas à Dieu toute la vénération dont il est digne en tant que Seigneur et Créateur? Alors si c'est le cas, le mur de croyants unis pour résister au mal s'émiette et des failles ont commencé à apparaître dans ses défenses. Dieu nous demande, il nous demande comme il a fait d'Ézéchiel, est-ce que ce mur de vertu se délabre parce qu'il n'y a personne pour ramener les peuples à l'obéissance? Chaque frêle tentative pour réparer ce mur de vertu par des rituels ou des messages basés sur l'opinion humaine plutôt que sur la parole infaillible de Dieu sont aussi inutiles que le blanchiment dont Ézéchiel parlait. seulement une mince pellicule sur la surface du problème. Ce dont nous avons réellement besoin, c'est de reconstruire nos vies. Quoi qu'il en soit, quand nous donnons l'impression d'aimer Dieu sans vivre selon la voie, nous cachons tous des péchés qui pourraient éventuellement endommager nos vies de façon irréparable. Donc, ne nous servons pas de la religion comme un blanchiment. Réparons plutôt nos vies entières et celles des gens de la terre en pratiquant les principes de la Sainte Parole divine dans tous les domaines de la vie. Dieu recherche ceux qui reconstruiront le mur de vertu qui protège la terre, ceux qui pourront se tenir dans les failles et défendre son honneur et son saint nom. Notre Seigneur appelle son peuple à se lever et à devenir un vrai mur de vertu. Il les appelle, oui, pour réparer les brèches et pour préserver la civilisation chrétienne entre tous les peuples de la terre. Dieu provoque son peuple et il nous dit « Allez-vous vous lever et faire partie de la majorité à construire un avenir chrétien dans lequel la droiture de Dieu l'emportera ?» Ceci n'est pas seulement notre devoir, oh non, mais aussi notre responsabilité éternelle. Et le manifeste affirme dans 20 articles cet appel et cette responsabilité. Je répète, le manifeste affirme dans une vingtaine d'articles cet appel et cette grande responsabilité. Premièrement, nous avons l'essence de Dieu. L'unité, le triple créateur et seigneur, le Père et le Fils, c'est à la base de toute vie. Nous affirmons que Dieu est unique, immuable et éternel. Bien que unique, il est à la fois une trinité. Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc, trois personnalités conscientes, déterminantes et distincte en parfaite harmonie. Aucun principe d'unité réelle ou de diversité réelle n'est logiquement supérieur ni moralement meilleur qu'un autre. Les deux principes sont bons et existent éternellement en Dieu et en sa création. Dieu est indivisible, indéfini en être et en perfection, le plus pur Saint-Esprit créateur est donc le Seigneur absolu de l'univers et du genre humain. Premièrement, il dit « Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. » Deutéronome chapitre 6 verset 4 et Saint Marc, chapitre 12, verset 29. Au roi des siècles, Dieu, incorruptible, invisible, unique, honneur et gloire, soit donné dans les siècles des siècles. 1 Timothée, chapitre 1, verset 17. Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui, et le sera à jamais. Hébreux, chapitre 13, verset 8. Moi, le Seigneur, je ne varie pas. Malachie, chapitre 3, verset 6. Mais s'ils me disent quel est son nom, que leur dirais-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Voici ce qu'il te faut dire. Je suis m'a envoyé vers vous. Exode, chapitre 3, verset 13 et 14. En vérité, je vous le dis, Jésus-Christ répondit qu'avant Abraham exista, je suis. À ces mots, ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Saint Jean, chapitre 5, verset 58. Deuxièmement, la Trinité. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, selon Saint Matthieu, chapitre 28, verset 19. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour divin et la communion du Saint-Esprit soient sur vous. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 14. Vous pouvez aussi mettre Saint Jean, chapitre 5, verset 7. Divinité de Jésus-Christ. Oui, à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ une foi d'un aussi grand prix que la nôtre. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 1. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Saint Jean, chapitre 1, verset 1. Ensuite, verset 18, verset 20 et verset 28. Et vous pouvez ajouter Romains, chapitre 9, verset 5, Philippiens, chapitre 2, verset 6. Et nous avons la divinité du Saint-Esprit. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur que tu mentes à l'Esprit-Saint? Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais à Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 3 et 4. Troisièmement, Dieu est Esprit. Et ceux qui l'adorent, c'est dans l'esprit de la vérité qu'ils doivent adorer. Saint Jean, chapitre 4, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et toutes choses qui s'y trouvent, lui, le Seigneur du ciel et de la terre, et il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait par exemple besoin de quoi que ce soit, parce que il donne lui-même aux hommes la vie, il leur donne le souffle et toutes choses. Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 14 à 25. Parce que c'est ce que le Seigneur a dit, lui qui créa le ciel et la terre. Il dit, je suis le Seigneur et il n'y en a pas d'autre. Et il n'y a pas d'autre Dieu que moi, un Dieu droit et un sauveur. Il n'y en a pas d'autre que moi. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Ésaïe, chapitre 45, versets 18 à 21. Et la terre est au Seigneur, et toute chose dedans. Psaume 24, verset 1. Jérémie, chapitre 32, verset 17 à 20. Psaume 7, verset 7 et 8. Et vous pouvez ajouter Révélation, donc Apocalypse, chapitre 15, verset 3. Deuxièmement, nous avons l'essence de la vérité. La Bible complète est inspirée de Dieu et, sans nul doute, elle est le test final de toute vérité. Nous affirmons que la Bible complète est entièrement inspirée par Dieu. Elle est éternelle et immuable dans sa forme originale écrite. Donc, elle est le seul test absolu, objectif et final pour toute chose que l'homme revendique comme vérité. Les Saintes Écritures offrent à l'homme la seule connexion logique et verbale entre l'éternité et le temps, la religion et la science, l'invisible et le visible, Dieu et la création. La Bible est l'image terrestre la plus claire donnée à l'homme et de la réalité compréhensive et ultime. Premièrement, toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, réfuter, redresser et former à la justice. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve-t-il équipé pour toute œuvre bonne. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, et psaume 33, verset 6. La Bible est la véritable parole de Dieu. Une fois reçue, la parole de Dieu que nous vous faisons entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole de l'homme, mais comme ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Après avoir à maintes reprises et sous maintes formes parlé jadis par les prophètes, en ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par son Fils bien-aimé. Hébreux, chapitre 1, verset 1. Seigneur, tu as parlé par l'Esprit Saint, par la bouche de ton serviteur, David. Actes, chapitre 4, verset 24. Tout comme saint Paul a écrit, selon la sagesse que Dieu lui a donnée, que les gens sans instruction détournent de leur sens, comme ils ont fait des autres écritures. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 15. Deuxièmement, l'écriture sainte, éternelle et immuable, car tu es né à nouveau, non pas de semences corruptibles, mais incorruptibles, au travers de la parole de Dieu vivante et permanente. Car tous les hommes sont comme l'herbe. L'herbe dépérit, mais la sainte parole du Seigneur restera à jamais, et c'est cette parole qui t'a été prêchée. Premier épître de Pierre, chapitre 1, versets 23 et 24. Ceci est également l'autorité de l'Ancien et du Nouveau Testament. Troisièmement, Dieu ne ment pas. Donc, sa parole est la vérité absolue. Et les paroles du Seigneur sont des paroles sincères, testées comme de l'argent purifié dans une fournaise d'argile, purifié 7 fois. Psaume, chapitre 12, verset 6. Car la parole du Seigneur est droite et vraie. Psaume 33, verset 4. toute parole de Dieu et éprouvez. À ces discours, n'ajoute rien, de crainte qu'ils ne te reprennent et te tiennent pour un menteur. Proverbe chapitre 30, versets 5 et 6. Sanctifiez-les dans la vérité, car ta parole est la vérité. Saint Jean chapitre 17, verset 17. Il est impossible pour Dieu de mentir. Hébreux 6, verset 18, ainsi que 1 Samuel chapitre 15, verset 29. Et à l'Écriture ne peut être récusée. Oui, la Sainte Écriture ne peut être récusée. Saint Jean chapitre 10, verset 35. Et vous pouvez noter le psaume chapitre 19, verset 119. Quatrièmement, nous n'avons pas cru des fables sophistiquées à propos du Seigneur, mais nous sommes les témoins oculaires de sa majesté. Par-dessus tout, vous devez comprendre qu'aucune prophétie d'écriture sainte n'est objet d'interprétation personnelle. Ce n'est pas d'une volonté humaine qu'est venue une prophétie, c'est poussé par l'Esprit Saint que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 16 à 21. Donc, par la foi dans la sainte parole de Dieu, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit provient de ce qui n'est pas apparent. Hébreux, chapitre 11, verset 3. Troisièmement, nous avons l'essence de la création. Dieu, en accord avec ses lois vertueuses, créa l'univers et donna forme à l'homme. Nous affirmons donc que Dieu créa toute chose du néant par sa parole seule et qu'il donna forme à Adam avec la poussière du sol, comme les Saintes Écritures nous l'enseignent. Il a créé l'univers et l'homme en accord avec les lois vertueuses de son être. Donc, il y a une relation de cause à effet entre l'obéissance ou désobéissance à ses ordres, ses grâces ou ses fléaux dans tous les domaines de la vie. Uniquement sur les bases d'un concept direct de création spéciale, chaque individu possède-t-il ainsi des valeurs et dignités immenses, indépendamment de sa position dans la vie. Quand Jésus-Christ dit « Toute autorité au ciel et sur la terre m'a été donnée », il déclarait que sa souveraineté s'étend à toutes les sphères de la vie de la création entière, et que la poigne des pouvoirs sataniques a été brisée par sa mort, par sa résurrection victorieuse, par son ascension et sa mise sur le trône à la droite du Père. Premièrement, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse chapitre 1, versets 1, 2 et 3. Les mondes ont été formés sur une parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit provient de ce qui n'est pas apparent. J'ai déjà dit Hébreux 11, verset 3. Car c'est par lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, visible et invisible. Colossiens 1, chapitre 16. Car en 6 jours, le Seigneur créa le ciel et la terre. Colossiens chapitre 20, verset 11, ainsi que le chapitre 31, verset 17. Deuxièmement, et le Seigneur Dieu modela l'homme avec la glaise du sol et insuffla dans ses narines une haleine de vie. Genèse chapitre 2, verset 7. Du sol tu fus tiré, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Genèse chapitre 3, verset 19. C'est ainsi qu'il est écrit, le premier homme Adam a été fait âme vivante, le dernier Adam un esprit vivifiant. Le premier homme était issu du sol, le second du ciel. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, Saint Matthieu chapitre 19, verset 4, ainsi que Romains chapitre 5, verset 12. Troisièmement, ô juste que vous êtes, Seigneur et droiture, que tes jugements sont droits et irrécusable. Psaume 119, verset 137. Quatrièmement, si tu obéis vraiment le Seigneur ton Dieu, en gardant et en suivant tous ses commandements, toutes ces bénédictions t'adviendront et t'atteindront. Toutefois, si tu n'obéis pas le Seigneur ton Dieu, et tu ne sais pas avec attention, et tu ne suis pas ses commandements et ses décrets, alors tous les fléaux vont s'abattre sur toi. Deutéronome chapitre 28, verset 1. Vous pouvez noter Lévitique chapitre 26, verset 1, et Romains chapitre 2, verset 1. Cinquièmement, qui verse le sang de l'homme par l'homme aura également son sang versé. Car à l'image de Dieu, Dieu a fait l'homme. Genèse chapitre 9, verset 6. Genèse chapitre 1, verset 27. Sixièmement, toute autorité au ciel et sur la terre m'a été donnée. Va, fais des disciples de toutes les nations. Saint Matthieu, chapitre 28, verset 17. Il a dépouillé les principautés et les puissances et les a données en spectacle à la face du monde, triomphant sur eux, et ceci par la croix. Colossiens, chapitre 2, verset 15. Exalté à la droite de Dieu, il a répandu tout ce que vous voyez et entendez. Actes, chapitre 2, verset 33, ainsi que Révélation, qui veut dire Apocalypse, chapitre 12, verset 4 et 5. Quatrièmement, nous avons l'essence de l'autorité. Dieu, en tant que créateur, au travers de ses révélations, est la seule source de toute autorité. Nous affirmons que Dieu, dans toute sa sagesse, le Créateur du ciel et de la terre, est la seule et véritable source d'autorité, et qu'il a révélé son autorité dans la Bible et dans la création de l'univers. La Bible est la barre d'appel finale en ce qui concerne la foi et la vie. En jugement, elle emporte sur la tradition, la loi, la philosophie, la science et l'expérience. Elle est la norme infaillible dans tous les domaines de la vie humaine. Premièrement, qui a dirigé l'Esprit du Seigneur? ou a su l'instruire? Qui a-t-il consulté qui lui fasse comprendre? Et qui l'a instruit dans les sentiers du jugement, de la connaissance et de la voie de l'intelligence? Ésaïe chapitre 40, versets 13 et 14. Vous pouvez noter Romains chapitre 11, versets 34 à 36. Pourquoi les nations et les souverains s'insurgent et conspirent contre le Seigneur et son Messie? Celui qui siège dans les cieux s'en amuse, car c'est moi qui ai sacré mon roi. Et maintenant, comprenez, corrigez-vous, juge de la terre et servez le Seigneur. Deuxièmement, les cieux racontent la gloire de Dieu, le firmament proclame le travail de ses mains. Le jour au jour, il en publie le récit et transmet la connaissance. Le roi s'élève sur toute la terre. La loi du Seigneur est parfaite, irrécusable, droite, certaine et tout à fait juste. La colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre les hommes qui tiennent la vérité captive, car ce que l'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste. Ce qu'il a d'indivisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres et qui rend l'homme inécusable. Romains, chapitre 1, verset 18. Troisièmement, si on vous dit « Allez consulter le spectre et les devins », n'est-il pas vrai qu'un peuple consulte ses dieux? Pourquoi consulter les morts pour les vivants? Pour l'instruction et pour le témoignage. Sûrement, on s'exprimera selon cette parole d'après laquelle il n'y a pas d'aurore. Ésaïe 8, versets 19 et 20, et Deutéronome, chapitre 13, verset 1. N'allez pas plus loin que ce qui est écrit. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 6. Jésus-Christ répondit, « Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au nom de vos traditions ?» Saint Matthieu, chapitre 15, verset 3. Quatrièmement, prenez garde qu'il ne trouve quelqu'un pour vous réduire en esclavage par le vin. Oui, par des vins leurres, les leurrés, par de la philosophie, selon une tradition toute humaine, selon les éléments du monde et non selon le Christ. Colossiens chapitre 2, verset 8. Car il est écrit, « Je détruirai la sagesse des sages. Si quelqu'un parmi vous croit être sage à la façon de ce monde, qu'il se fasse fou pour devenir sage. » 1 Corinthiens chapitre 1, verset 19. Car c'est le Seigneur qui donne la sagesse, de sa bouche sortent le savoir et l'intelligence. Garde ce qui t'a été donné. Évite les objections d'une pseudo-science. Pour l'avoir professée, certains se sont écartés de la foi. 1 Timothée chapitre 6, verset 20. Et sachez que la parole de Dieu est sans défaut. Psaume chapitre 18, verset 30. Cinquièmement, nous avons l'essence de la vie. La vie humaine créée à l'image de Dieu est précieuse et restaurée grâce au jour du Seigneur. Nous affirmons que toute vie humaine est créée à l'image de Dieu. Elle est précieuse et doit être traitée avec respect et bienveillance de la conception à la mort naturelle, qu'importe la mutilation, le handicap ou le non-vouloir. La prise de vie humaine avec préméditation est un meurtre. La source de notre vie dans le Christ, c'est sa grâce reçue par la foi. Ceci résultant de ses vies qui démontrent sa droiture, sa connaissance, sa sainteté et sa puissance à la gloire de Dieu. L'écoulement de sa vie est en relation au règne de Dieu et à notre égard pour le jour du Seigneur. En respectant dans la foi le jour du Seigneur, nous recevons notre nourriture spirituelle et le repos physique qui permettent à la vie de Dieu, le Créateur, de s'écouler par nous sur la société, affectant nos relations avec nos familles, nos voisins et nos semblables. Premièrement, mais je demanderai compte du sang de chacun de vous à l'homme et aux hommes entre eux. Qui verse le sang de l'homme, par l'homme aura. Oui, par l'homme aura son sang versé. Car, voyez-vous, à l'image de Dieu, l'homme a été fait. Genèse chapitre 1, verset 26. Vous n'accepterez pas de rançon pour un meurtrier passible de mort, car il doit mourir. Nombre chapitre 35, verset 31, psaume chapitre 49, verset 7. Deuxièmement, tu ne tueras pas. Exode chapitre 20, verset 13, Saint Matthieu chapitre 19, verset 18. Et préméditation ou méchanceté nécessaire. Exode chapitre 21, verset 12 à 14. L'avortement, c'est un meurtre. Si des hommes, en se battant, bousculent une femme enceinte et que celle-ci donne naissance prématurément, mais sans autre accident, subi par l'enfant ou la femme, le coupable payera une indemnité. Mais s'il y a accident, tu donneras vie pour vie. Exode 21, verset 22. Toute vie humaine est précieuse. Que servira-t-il donc à l'homme de gagner le monde entier s'il ruine sa propre vie? Saint Matthieu, chapitre 16, verset 26. Il est coûteux le rachat de son âme. Aucun payement n'est suffisant. Psaume 49, verset 7, ainsi que le chapitre 25, verset 2 et 3. Troisièmement, car c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, moyennant la foi. Éphésiens 2, versets 8 et 9. Et revêtir l'homme nouveau, qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Éphésiens chapitre 4, verset 24, Colossiens chapitre 3, verset 10. Il y a la copuissance qui est donnée aux saints sur la terre. Hébreux chapitre 2, verset 5, et Apocalypse chapitre 1 verset 6, ainsi que le chapitre 5 verset 10. Et quatrièmement, le sabbat a été fait pour l'homme, Saint Marc chapitre 2 verset 27. Le septième jour est un jour de repos, ainsi comme toi-même, ton serviteur pourra se reposer Genèse chapitre 2 verset 2 et Romains chapitre 13 verset 9. L'amour remplit tous les commandements. Le septième jour est un jour de sainte convocation. Lévitique chapitre 23 verset 3, 1 Corinthiens chapitre 16 verset 2 et Apocalypse chapitre 1 verset 10. C'est le jour de repos spirituel dans le travail terminé du Christ. Il reste alors le jour du repos pour le peuple de Dieu, car qui suit le jour du Seigneur avec la foi se repose de son travail comme Dieu l'a fait. Hébreux chapitre 4 verset 1. Sixièmement, nous avons l'essence de la famille. La famille obéissante à Dieu est la première pierre du fondement de la société. Nous affirmons que la famille est le fondement de la société autant pour les gouvernements civils que pour ceux de l'Église. La famille est une sphère gouvernante sous Dieu et ne dérive ses autorités d'aucune institution terrestre. Elle est formée d'un homme et d'une femme unis dans une relation mariciale permanente. Dieu a demandé que la famille soit féconde afin que le juste emplisse, possède et hérite de la terre sur laquelle il doit dominer selon la loi de Dieu. Les relations à l'intérieur de la famille doivent être modelées sur la relation entre le Christ et l'Église. C'est donc l'endroit où chacun est le mieux instruit et développé. C'est par la famille que l'héritage de Dieu est transmis à la descendance terrestre afin que continue son autorité sur leur terre. Dieu a demandé aux femmes d'être sages et d'être des complices vertueuses et aux maris de s'engager en tant que chefs dévots de la famille, la représentant dans l'État et dans l'Église. Il est responsable en gérant la Sainte Parole avec humilité et amour de tous ceux qui dépendent de son autorité protectrice, sachant qu'il doit rendre compte de cette responsabilité à Dieu. Premièrement, celui, un surveillant, qui ne sait pas comment gouverner sa propre maison, comment peut-il prendre soin de l'Église de Dieu ? 1 Timothée, chapitre 3, versets 4 et 5. Les enfants ou petits-enfants devraient s'occuper de leurs parents et de leurs grands-parents. 1 Timothée, chapitre 5, verset 4 et 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 2, ainsi que Saint Matthieu, chapitre 15, verset 3. Deuxièmement, enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Cela est juste. Honorez vos parents. Tel est le premier commandement auquel soit attachée une promesse. Éphésiens, chapitre 6, versets 1 à 4, ainsi que Deutéronome, chapitre 5, verset 16. Troisièmement, ce que Dieu a uni, qu'aucun homme ne les sépare. Saint Matthieu, chapitre 19, verset 3. Quatrièmement, Dieu créa l'homme, le bénit et dit, « Soyez féconds et multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. » Genèse chapitre 1, verset 27, ainsi que le chapitre 9, verset 1 et le verset 7. C'est l'héritage de Dieu que les fils sont une récompense du Seigneur. Psaume 127, verset 3 et Deutéronome, chapitre 28, verset 4 et 11. Cinquièmement, cette relation mari-femme est un mystère, mais je parle du Christ et de l'Église. Éphésiens, chapitre 5, verset 21 à 23. Sixièmement, car c'est pour vous une promesse et pour tous ceux qui sont au loin. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 39. Ésaïe, chapitre 59, verset 21. Il avait commandé à nos pères de faire connaître à leurs enfants que la génération qui vient le connaisse, le commandement de Dieu. Ceci pour qu'ils mettent en Dieu tout leur espoir. Psaume 78, versets 5 à 7, ainsi que Éphésiens, chapitre 6, verset 4. Septièmement, le rôle des femmes se trouve dans la Genèse et dans Galates. Dans Galates, chapitre 2, versets 18 à 20, Éphésiens, chapitre 5, verset 21, ainsi que 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 2 à 16. Vous pouvez noter également Éphésiens, chapitre 5, verset 21, Colossiens, chapitre 3, verset 19. Et huitièmement, il y a la discipline. Proverbes, chapitre 13, verset 24, et Éphésiens, chapitre 6, verset 4. Septièmement, nous avons l'essence du travail et des biens privés. Oui, les chrétiens vertueux prospèrent grâce au travail créatif et productif et grâce à ses droits de propriété. Nous affirmons qu'un travail sage et créatif est un des aspects de la personnalité de Dieu. Le travail est donc un aspect de l'image de Dieu en l'homme, une partie du don créatif de Dieu à l'homme. Le travail est une demande de Dieu à tous les hommes et devrait être fait ainsi comme le Seigneur nous l'indique. L'homme, à la fin, prospère par un travail créatif et grâce à l'application de la connaissance, de la sagesse et de la domination dans toute sa vie et son obéissance à la sainte parole de Dieu. Les biens privés, dans le sens de la production, sont à la fois l'intendance et un bienfait de Dieu garanti dans ses lois. La propriété est le fruit du travail honnête de l'homme afin de pourvoir surtout à lui-même, tout d'abord, et ensuite à sa famille, très important, et à tous ceux dans le besoin. Un bien privé, libre et construit économiquement sur les lois bibliques, offre donc un environnement économique de stabilité de prix prévisible et croissant, donnant confiance pour un futur paisible dans lequel les vertus chrétiennes telles que le travail assidu, l'épargne, la sauvegarde, la créativité, l'investissement et la charité peuvent fleurir. Premièrement, depuis longtemps, tu as fondé la terre et les cieux. Les cieux sont également l'ouvrage de tes mains. Psaume 102, verset 25, ainsi que le chapitre 8, verset 2, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent et j'œuvre moi aussi. » Saint Jean, chapitre 5, verset 17. Deuxièmement, Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin pour le cultiver et le garder. Genèse, chapitre 1, verset 26 et chapitre 3, verset 17. Pendant 6 jours, tu travailleras. Exode, chapitre 20, verset 9. Éphésiens, chapitre 2, verset 10 et chapitre 4, verset 28. Travaillez pour la gloire de Dieu seul. Quel que soit votre travail, faites-le avec âme, comme pour le Seigneur, non pas seulement pour les hommes. Colossiens, chapitre 2, verset 23, Éphésiens, chapitre 6, verset 5 à 9. Troisièmement, c'est par sagesse qu'on bâtit une maison, par l'intelligence qu'on l'affermit, par le savoir, on emplit ses greniers de tous les biens précieux et désirables. Proverbes, chapitre 24, versets 3 à 4. À la main diligente, le commandement, la main nonchalante aura la corvée. Proverbes, chapitre 12, verset 24. Quatrièmement, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain. Deutéronome, chapitre 5, versets 19 et 21. Romains, chapitre 7, verset 7 et le chapitre 13, verset 9. La terre ne sera point vendue à perpétuité parce que la terre est à moi et vous êtes mes hôtes. Lévitique, chapitre 25, verset 23. Exode, chapitre 19, verset 5 et le chapitre 9, verset 29. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux avec ce qui m'appartient? Saint Matthieu, chapitre 20, verset 15. N'en étais-tu pas libre de garder le prix? Actes, chapitre 5, verset 4. Cinquièmement, riche en nourriture, la culture des pauvres, il en est qui périssent faute d'équité. Proverbe chapitre 13, verset 23. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et surtout de ceux qui vivent avec lui, il a renié la foi. 1 Timothée, chapitre 5, versets 3 à 9, ainsi que Éphésiens, chapitre 4, verset 28. Sixièmement, déprécier la monnaie, tricher sur les mesures, sont détestables pour le Seigneur. Proverbe, chapitre 20, verset 10. Et septièmement, l'assiduité. Proverbe 6, verset 6, l'économie et l'épargne. Proverbe 13, verset 11 et Romains, chapitre 13, verset 8. L'investissement, Saint Matthieu, chapitre 25, verset 27. La charité, Deutéronome 15, verset 1. Proverbe 11, verset 25. Et maintenant, nous arrivons huitièmement. Huitièmement, nous avons de la liberté et de la responsabilité. La liberté résulte de l'obéissance totale en Dieu et en sa sainte parole dans toute vie, absolument. Donc, nous affirmons que la liberté de l'homme dans l'Écriture sainte est la responsabilité d'obéir à Dieu et de l'aimer à jamais. il ne peut y avoir de liberté pour le mal. Le salut compréhensif de l'homme résulte dans l'exercice de la domination chrétienne et de la responsabilité. L'honnête obéissance à la loi de Dieu est essentielle pour une vie dévote. Comme l'homme croit et obéit à Dieu, il reçoit à la fin la liberté civile, la sécurité et la prospérité. Donc, il expérimente la liberté vraie en remplissant ses responsabilités envers Dieu, sa famille, ses possessions, envers son travail et ses obligations. En cela, il apporte le message chrétien de la vie et montre qu'il est réellement régénéré et renouvelé dans l'image morale de Dieu et libre de l'emprise de Satan. Premièrement, il y a les faux maîtres, promettent la liberté, mais ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car on est esclave de ce qui nous domine. Romains chapitre 6, verset 15 à 23, et 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. En vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave. Saint Jean, chapitre 8, versets 31 à 35, et la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 16. Et où est l'Esprit du Seigneur? Là est la liberté. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 17. Deuxièmement, tout savoir m'a été donné, donc disciplinez tous les peuples en les baptisant et en leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Saint Matthieu chapitre 28 verset 18. N'allez pas croire que je suis venu abolir la loi ou les prophètes, mais les accomplir. Qui pratique et enseigne ses commandements sera tenu pour grand au royaume des cieux. Saint Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 20. Faites-les valoir jusqu'à mon retour. Saint Luc, chapitre 19, verset 13. Nous avons la parole des talents. Et nous avons également le fidèle serviteur. Donc nous avons la parabole des talents, vous l'avez compris, et nous avons le fidèle serviteur. Cela est décrit dans Saint Matthieu chapitre 24 verset 42 ainsi que le chapitre 25 verset 14. Troisièmement, je te propose vie et bonheur, ou mort et malheur. Car je vous commande aujourd'hui d'aimer le Seigneur, de suivre ses commandements. Alors vous vivrez et vous croisserez. Maintenant choisissez la vie, afin que vous et vos enfants puissent vivre. Deutéronome chapitre 30, versets 15 à 20. Quiconque aime la vie et voit les beaux jours doit garder sa langue du mal, des discours trompeurs. Il doit donc se détourner du mal et faire le bien, car les yeux du Seigneur sont sur le juste. Première épître de Pierre, chapitre 3, verset 10, ainsi que le psaume 34, verset 12. Enfants, honorez vos pères et mères. Le premier commandement auquel soit attachée une promesse que vous puissiez vous en trouver bien. Éphésiens chapitre 6, versets 1 et 2, ainsi que Deutéronome chapitre 5, verset 16. Et quatrièmement, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Et cela, vous l'étiez bien quelques-uns, mais vous êtes maintenant lavés, vous avez été sanctifiés par le saint nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit Saint. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 11, Romains, chapitre 7, versets 4 à 6, saint Matthieu, chapitre 12, versets 50, Éphésiens, chapitre 4, versets 20, Colossiens, chapitre 2, verset 13, et le chapitre 3, toujours de Colossiens, chapitre 3 de Colossiens, versets 1 à 5. Je vous demande pardon. Alors, neuvièmement, nous avons l'essence de la providence et de l'histoire. Dieu précide sur l'histoire et il pourvoit en toutes choses avec justice. Nous affirmons que Dieu, par sa providence souveraine, il règne sur la totalité de sa création. Il a préordonné et guidé actuellement l'histoire vers son apogée marqué par la deuxième venue du Christ. Dieu, dans sa providence, travaille toutes choses pour le bien des hommes justifiés. Cela inclut toute décision faite librement, basée sur la propriété privée, l'environnement économique établi par la parole de Dieu. Cela ne libère pas l'homme de la responsabilité personnelle, car la providence fonctionne de telle manière que lorsque l'homme croit en Dieu et travaille en accord avec le système légal de la Bible et dans son contexte libre et économique, il exerce une domination pieuse sur l'histoire. Il expérimente la grâce, la bénédiction compréhensive et la liberté dans l'histoire. Toutefois, pour ceux qui désobéissent à la juste loi de Dieu, incluant les oppresseurs et ceux qui n'ont pas de compassion pour les pauvres, il apporte son jugement autant dans l'histoire qu'à leur dernier jour. C'est donc sérieux. Premièrement, qui a su diriger l'Esprit du Seigneur ou a su l'instruire? Sûrement, les nations sont comme une goutte d'eau dans la mer. Il, Dieu, est mis sur le trône. Il s'est mis sur le trône au-dessus de la terre. Et il réduit à néant tous les chefs de ce monde. Le Seigneur est le seul créateur. Ésaïe, chapitre 40, verset 12. Toutes les choses ont été créées par et pour le Christ. Il est donc avant toute chose et tout subsiste en lui. Colossiens chapitre 1 verset 15, Actes des Apôtres, chapitre 2 verset 23, chapitre 4 verset 28. Deuxièmement, et il nous a fait connaître sa volonté qu'il a accompli dans le Christ pour réaliser, quand les temps seraient accomplis, ramener toutes choses sous un seul chef, le Christ. Car en lui, nous avons été choisis selon le plan préétabli de celui qui mène toutes choses au gré de sa volonté. Éphésiens, chapitre 1, verset 8. Mais le Christ est ressuscité d'entre les morts, et chacun son rang, le Christ, puis lorsqu'il viendra, il viendra, et lorsque la fin viendra, lorsqu'il remettra la royauté au Père, après qu'il ait détruit, vous l'avez entendu, après qu'il ait détruit toute principauté, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait placé tous ses ennemis sous ses pieds. 1 Corinthiens, chapitre 15, et on peut prendre depuis le verset 1 jusqu'au verset 25, ainsi que Saint Matthieu, chapitre 12, verset 17 à 21. Troisième moment, et nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, eh bien Dieu collabore en tout pour leur bien par ceux qu'il a appelés selon son dessein. Romains, chapitre 8, verset 28. Et quatrièmement, il y a la bénédiction et le jugement. Romains chapitre 1 et le chapitre 2. Au juste est réservée la fortune des pécheurs. Proverbes chapitre 13 verset 22. La justice exalte une nation, mais le péché est la honte des peuples. Proverbes 14 verset 24. Et si le juste ici-bas reçoit son salaire, combien plus le pécheur? C'est autre chose. Attention. Dixièmement, nous avons l'essence de l'homme. L'homme a été créé à l'image de Dieu, nous est-il dit. Mais il est devenu totalement coupable, malheureusement. Alors nous affirmons que l'humanité a été spécialement créée par Dieu à son image et dotée par la valeur et la dignité incommensurables de Dieu. En tant qu'image de Dieu, il a été donné à l'homme une responsabilité dominante sur la terre. Créé comme un être national, plutôt comme un être rationnel. Je répète, il a été créé comme un être rationnel et un être moral. Donc, il est quoi? Il est redevable à Dieu. Il est redevable de toutes ses attitudes et de toutes ses actions, quelle que soit sa position dans la vie. L'homme n'a aucun droit dérivé ou propre dans cette nature créée. Sa justice, les droits et les devoirs de l'homme dans la société sont seulement définis par les provisions gracieuses de la loi de Dieu. À cause de la rébellion et de la chute de Adam, l'image morale de Dieu dans la société est totalement brisée. La nature de l'humanité et l'environnement existent dans un état corrompu et atteint la condamnation de Dieu. À cause de la totale anarchie dans son cœur et dans ses travaux, il est entièrement dépendant de Dieu pour son salut dans tous les domaines de la vie. Premièrement, Dieu créa l'homme à son image. Dieu le bénit et il dit « Remplissez la terre et soumettez-la, régnez sur tout ce qui est en elle. » Genèse chapitre 1, versets 27 et 28. Deuxièmement, Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, car Dieu ne fait pas de favoritisme. Romains chapitre 2, verset 6. Troisièmement, la loi est sainte, saint est le précepte est juste et bon. Romains chapitre 7, verset 12, Romains chapitre 3, verset 31, ainsi que Psaume chapitre 11, verset 3 et 7 et le verset 10. Vous pouvez aussi noter le psaume 119, verset 68. Quatrièmement, l'image n'est pas oblitérée. Notez 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 7. L'image, elle est brisée. Genèse, chapitre 5, verset 1 à 3. Et Romains, chapitre 3, verset 9. L'image inclut la domination, la droiture et la sainteté. Tu as appris à abandonner le premier genre de vie qui, dans la ressemblance, a été créé selon Dieu dans la justice et dans la sainteté. Éphésiens chapitre 4, verset 21. Romains chapitre 8, verset 28. Le Christ est à l'image de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Hébreux chapitre 2, verset 5. Et 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20. L'image de l'homme est restaurée dans le Christ. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 29. Cinquièmement, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et que ainsi la mort a passé en tous les hommes du fait que tous ont malheureusement péché. Romains chapitre 5 verset 12. Parce que la création a été assujettie à la vanité. Romains 8 verset 20. Et sixièmement, il n'est pas de juste, pas un seul. Romains 3 verset 10. Le péché et l'iniquité. Premier épître de Johannes, de Jean, chapitre 3, verset 4. Parce que l'esprit pécheur est hostile à Dieu, il ne se soumet pas à la loi de Dieu, ni ne peut le faire. Donc ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Romains chapitre 8, verset 7. Tous sont pécheurs, moi y compris, et sont privés de la gloire de Dieu, étant justifiés sans mérite par la faveur de sa grâce en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ. Romains 3, verset 23. C'est pour ça que je dis souvent, je suis un pécheur, encore malheureusement, mais sauvé par grâce. Alléluia. Et onzièmement, le manifeste pour les chrétiens, c'est l'essence du salut. Et nous terminerons pour cette première partie avec l'essence du salut. Nous ne pourrons pas citer tous les versets bibliques, il n'y a plus la place. Le salut de l'homme est uniquement, souvenez-vous, dans la grâce par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Uniquement. Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par mes mérites, quels qu'ils soient. Nous affirmons la priorité biblique de proclamer l'évangile du salut et de discipliner tous les peuples. Dans son incarnation, Jésus-Christ est, il est tout Dieu et tout homme, deux natures distinctes dans une seule personne. Par la vertu de sa vie soumise, de sa mort substitutive et de sa résurrection corporelle, il est donc l'unique sauveur et le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Si vous vous prenez pour un gourou exceptionnel ou une réincarnation de Moïse ou de quelqu'un d'autre, vous êtes un menteur et vous êtes un usurpateur. Et croyez-moi, vous serez détruit. Ce ne sera pas drôle du tout. Et jeté dans l'étang de feu. Et là, ce ne sera pas une destruction totale, définitive, je peux vous le dire, c'est la souffrance éternelle. Donc, Dieu seul, pas l'État ni l'Église, c'est Dieu seul qui est le Messie, c'est lui seul qui est le Seigneur de l'histoire et de la rédemption. Il est le rédempteur des individus et des peuples. Le vrai repentir veut dire se tourner vers le Christ et se détourner du péché, surtout de l'idolâtrie et de la croyance en l'homme pour le salut social et individuel. Le vrai repentir résulte toujours dans le fruit d'un nouveau style de vie, de croyance véritable et dans l'honnête obéissance à sa sainte parole. Seulement ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ et qui sont reçus et renouvelés par lui sont des véritables chrétiens. Comme pour le premier Adam, la mort vient à tous. Alors, par le second Adam Jésus-Christ, son salut est suffisant pour tous et il est offert à tous. Car Dieu a envoyé son Fils pour que le monde soit sauvé par lui. Allez de toutes les nations et faites des disciples, nous dit-il, et soyons donc sauver pour servir. J'arrêterai donc cette première partie ici et demain nous aurons, Dieu voulant, la deuxième partie. Chers amis, à bientôt à nouveau. Que le Seigneur vous bénisse et prions les uns pour les autres. N'oublions pas cela. Au revoir, mes très chers amis.